Bonjour, nous sommes sur Radio Grenouille pour le Petit Alter Radio, l'émission mensuelle présentée par Attaque Marseille, comme chaque deuxième samedi du mois. Attaque Marseille, c'est une organisation d'éducation populaire qui a l'objectif, c'est de vous amener à réfléchir sur les sujets d'actualité que l'on vit tout le temps et de vous donner des moyens d'action et de réflexion pour faire changer les choses dans le sens d'une meilleure justice sociale. Je suis aujourd'hui avec Benoît Drevet qui nous va animer cette émission et puis Louis Rousseau. Nous allons parler des impôts.
Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler en effet de fiscalité. Voici donc venir le mois de mai et avec lui les déclarations d'impôts sur le revenu à remplir. Cette obligation est un devoir, un acte juste et citoyen par lequel chacun participe financièrement au fonctionnement de notre société de droit démocratique. Mais en matière fiscale, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, les temps sont durs, le vent est aux restrictions budgétaires. On entend dire que trop d'impôts tuent l'impôt, qu'il faut libérer les forces productives du poids de l'impôt. Et puis il y a aussi le fameux bouclier fiscal. Mais l'enjeu de ce débat, c'est surtout celui des capacités de financement des politiques publiques. Je paye des impôts pour construire les routes, les hôpitaux, assurer un service de santé efficace et à un coût abordable. Mais à titre d'exemple, le bouclier fiscal va obliger l'État à rembourser 600 millions d'euros aux contribuables les plus riches. Et 600 millions d'euros, c'est aussi l'économie que fait l'État en ne remplaçant qu'un fonctionnaire sur deux. Que doit-on comprendre ? Avec nous, pour parler de tout cela, aujourd'hui, Vincent Drezet, membre du conseil scientifique d'Attaque et membre du syndicat national unifié des impôts. Vincent Drezet, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, nous allons aborder avec vous dans cette première partie de l'émission la justification de l'impôt, son fondement, son utilité. Alors, je voulais d'abord aborder avec vous que vous nous disiez un mot du lien qu'il y a entre la démocratie, le concept de démocratie et l'impôt. Qu'est-ce qui les lie tous les deux ?
Traditionnellement, on dit que l'impôt, c'est le lien entre l'individu et la société. Tout simplement parce que l'impôt, déjà formellement, permet de financer des biens collectifs, donc qui profitent à la société. Et puis, il est mis en œuvre démocratiquement, en tout cas en théorie, par le Parlement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un consentement à l'impôt et puis un vote par le Parlement tous les ans d'une loi de finances qui comporte un volet recettes, donc la recette fiscale, et un volet également dépenses, parce que l'impôt, c'est pas simplement des recettes, c'est des recettes pour financer des dépenses publiques en matière d'éducation, de recherche, de sécurité, de cohésion sociale, etc. Donc voilà, le lien entre la démocratie et l'individu s'effectue par l'impôt parce que eh bien, chacun donne pour l'intérêt général, et c'est mis en œuvre à la fois sur le plan des recettes et sur le plan des dépenses par le Parlement, qui est en théorie quand même le représentant du peuple. Voilà en deux mots ce qu'on peut dire sur le lien impôt-démocratie.
Alors, chacun donne, comme vous disiez, certes, mais il faut pour le contribuable participe à l'impôt, il faut qu'il ressente personnellement la légitimité de cet impôt, et donc il faut que l'impôt soit perçu comme juste. Oui, dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire qu'un impôt est juste ou injuste ? Qu'est-ce qui fait le fondement de la légitimité de l'impôt ?
Alors c'est un débat, c'est un choix de société par excellence. Ce qui fait qu'un impôt est juste, c'est que chaque citoyen ait le sentiment de donner un montant qu'il peut financièrement donner, qui correspond à peu près à la situation, qui, donc par rapport à sa situation propre, c'est quelque chose qui est déjà, j'allais dire, supportable, et supportable d'autant plus en relatif par rapport aux autres, c'est qu'il a le sentiment que chacun contribue en fonction de sa situation, c'est-à-dire que à situation égale, eh bien normalement, le foyer fiscal, les personnes doivent donner à peu près le même montant. Donc le sentiment de justice, il est déjà sur la façon dont l'impôt est réparti. Et d'ailleurs, un des problèmes du moment, pour l'évoquer plus tard, c'est que précisément comme ce sentiment aujourd'hui est de plus en plus faible, eh bien la légitimité de l'impôt même est contestée. On le voit bien quand on a d'un côté le bouclier fiscal et des remboursements phénoménaux pour une poignée de contribuables et d'autres qui subissent des hausses, par exemple, d'impôts locaux, on voit bien que la question de la répartition, elle est fondamentale. Et enfin, il y a un deuxième volet qu'il ne faut pas oublier, c'est que on perçoit un impôt comme étant juste si on sait que derrière, il finance des dépenses utiles. utile socialement, utile économiquement, utile également maintenant sur le plan de la protection de l'environnement, etc. Donc c'est vraiment le volet recettes et dépenses qu'il faut aborder dans son ensemble. J'allais dire, à la limite, il faut aborder l'impôt par la dépense. Lorsqu'on sait ce qu'un impôt finance, déjà on a une partie qui est acceptée, qui est comprise. Et ensuite, le mode de répartition, c'est vraiment la technique fiscale, c'est évidemment déterminant parce qu'on ne peut pas réclamer le même montant à tout le monde, parce que, évidemment, ça fait mettre à contribution plus les pauvres que les riches. Et alors, en creusant comme ça, on arrive finalement tout simplement à réécrire ce qui a été écrit en 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit dans son article 13, eh bien, pour financer les dépenses publiques, une contribution est nécessaire et elle est répartie en raison des facultés des contribuables.
Alors, je rebondis là-dessus. Vous parlez de deux volets. Le premier volet, recettes. Alors, ce sont les impôts. Quels sont les différents types d'impôts pour qu'après on puisse avancer, à savoir si certains sont plus justes ou...
Voilà, on va séparer, on va distinguer déjà en lisibilité les impôts nationaux et les impôts locaux. Ensuite, quand on va creuser, on peut aussi trouver une différence entre les impôts directs et les impôts indirects. En deux mots, un impôt direct, c'est quelqu'un qui vous connaît, qui connaît le contribuable. C'est un impôt qui s'adresse directement au contribuable. C'est l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt sur les sociétés. Là, il y a une identification du contribuable lorsqu'il paye l'impôt. Et dans la plupart des cas, d'ailleurs, y compris dans les autres pays, c'est assez personnalisé. Ça, ce sont les impôts directs. On peut y retrouver aussi des impôts directs locaux, comme la taxe d'habitation. Mais de la même manière, la taxe d'habitation ou la taxe foncière connaît, identifie le contribuable qui la paye. Et puis, il y a la deuxième grande catégorie d'impôts, qui sont les impôts indirects. Le plus connu, c'est la TVA. C'est normal, c'est la moitié des recettes fiscales de l'État, la TVA. La TVA ne vous connaît pas. Elle connaît juste le montant que vous dépensez, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez Madame Durand, Monsieur Dupont. Lorsque vous payez 12 euros pour acheter un bien, et bien il y a 2 euros de TVA. La TVA ne connaît pas l'identité du contribuable, donc d'où l'appellation impôt indirect. Lorsqu'on a ces deux grandes catégories d'impôts, on a déjà la grande structure du système fiscal en France.
D'accord. Il y a aussi, on peut faire une distinction aussi entre les impôts progressifs et des impôts proportionnels, c'est ça? Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus?
Une fois qu'on a distingué les deux grandes familles d'impôts et qu'on s'attaque aux impôts directs, on a plusieurs formes d'impôts directs. On a des impôts comme l'impôt sur les sociétés qui sont des impôts proportionnels, c'est 33%, même si en réalité il y a un taux de 15% pour les PME, mais vous voyez, de manière générale c'est 33%. Et on a ce qu'on appelle l'impôt progressif. C'est l'impôt apparemment le plus compliqué à comprendre, mais c'est aussi l'impôt le plus juste. L'impôt progressif, le principe est le suivant, on va regarder les revenus de chacun, et par rapport aux revenus, eh bien, les pauvres paieront moins, proportionnellement moins, d'impôts que les riches. Alors on met en œuvre ça au travers d'un barème d'impôt sur le revenu, et si on regarde la situation avant impôt, après impôt, eh bien, les pauvres ne payent pas, les classes moyennes payent peu, et les classes aisées payent plus. Ça, c'est ce qui permet cette progressivité de corriger les inégalités, ce qui est quand même pas rien, mais c'est ce qui permet surtout de répondre au principe fondamental de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que chacun paye en raison de ses facultés. Et pourquoi il y a une progressivité? Parce qu'à la limite, certains pourraient nous dire on n'a qu'à faire payer tout le monde 10%. Sauf que si on faisait ça, si on appelait une contribution avec 10% pour tout le monde, 10% pour le revenu de quelqu'un qui est au SMIC, au RMI, etc., c'est insupportable. Donc socialement déjà, c'est insupportable. Économiquement, ça l'est également parce que ça veut dire qu'on attaque la capacité de consommation de biens vitaux pour des personnes les plus vulnérables. En revanche, ce qu'on sait aussi, c'est que plus on gagne, plus la part vitale pour accéder aux biens fondamentaux diminue. Et plus la capacité d'épargner, de spéculer, de placer augmente. Ça veut dire concrètement, et les économistes ont trouvé une appellation un peu étrange pour dire, c'est l'utilité marginale décroissante des revenus. En clair, ça veut dire que plus on gagne, moins on en a besoin, donc plus on peut payer d'impôts. Ça veut dire aussi qu'on rend la société une part plus importante que les pauvres de son revenu, parce que le revenu que l'on tire à ce qu'on est riche, c'est aussi parce qu'il y a des services publics, des biens publics, parce qu'on était formé à l'école, etc. Si on rentre dans la technique, la progressivité, en principe ce qui est le plus juste.
C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine somme d'argent gagné, socialement, cet argent ne sert plus à la collectivité, qu'on ne sert plus au vivre ensemble, quoi.
Ça ne sert plus au vivre ensemble, et on a même vu avec la crise que dans certains cas, ça pouvait même jouer contre la collectivité, parce que si on développe la capacité de spéculer, ça va se retourner contre la société, et on voit bien qu'ensuite, c'est la société dans son ensemble qui doit payer.
Oui. Donc, alors, je voudrais aborder là maintenant, pour terminer cette première partie, l'autre volet dont vous parliez, celui des dépenses. Donc, il y a d'un côté ces recettes dont nous venons de parler avec les différentes modalités, et d'un autre côté, l'objectif de l'impôt est de financer les politiques de l'État. Déjà, globalement comme ça, quels sont les grands axes de financement, les grands postes dans le budget ?
Le principal poste dans le budget de l'État, c'est l'enseignement scolaire. L'enseignement scolaire, c'est un peu plus de 60 milliards d'euros sur un budget total de 285 milliards d'euros. C'est le poste principal. On peut y rajouter à cela également tout ce qui touche à la recherche et à l'enseignement supérieur, qui est d'environ 25 milliards d'euros. Donc on voit bien que, j'allais dire, tout l'investissement sur la formation et l'éducation est quelque chose de primordial. D'ailleurs, ce qui traduit un souci d'une société telle que la France de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée, de pouvoir faire face par l'enseignement scolaire à la plupart des situations professionnelles. Ensuite, on a un poste très important, ce qu'on appelle engagement financier de l'État, c'est le remboursement des intérêts de la dette. C'est important, c'est 44 milliards d'euros. Et puis on a toute une diversité d'autres postes. On a par exemple tout ce qui touche à l'action extérieure de l'État, environ 2 milliards d'euros. On a tout ce qui touche à l'écologie, au développement durable et à l'aménagement du territoire qui concerne environ 10 milliards d'euros. La justice pour environ 7 milliards d'euros. Et vous voyez, il y a un certain nombre de postes comme ça qui sont regroupés dans la loi de finances.
On parle des vertus de l'impôt en tant qu'impôt incitateur, c'est-à-dire que l'État a la possibilité d'influencer les dépenses qu'il fait dans un certain nombre d'actions qu'il juge prioritaires. Comment peut-on le juger et le mettre en œuvre ?
Alors, l'impôt a trois fonctions essentielles. La première, c'est donc financer l'action publique, les services publics. Le deuxième objectif, c'est corriger les inégalités, notamment par la progressivité. Et le troisième objectif, effectivement, c'est l'incitation. Alors, l'incitation, en théorie, ça consiste pour l'État à faire un arbitrage déjà entre deux outils de politique économique. Soit il donne des subventions, soit il passe par des incitations fiscales qui peuvent prendre la forme de déductions, d'exonérations, de réductions. On y trouve les fameuses niches fiscales. Là-dedans, ce qu'il faut voir, c'est qu'il peut y avoir des incitations utiles et d'autres qui seront inutiles, qui sont le résultat d'un lobbying, etc. Et on est malheureusement dans cette situation-là. Mais en théorie, on pourrait tout à fait, par exemple, sur le plan de la fiscalité écologique, ça existe, ça peut être développé, considérer que l'État peut renoncer à certaines recettes en favorisant tel ou tel secteur, ou l'achat de tel ou tel matériel, en l'occurrence éventuellement qui favoriserait la préservation de l'environnement. Alors il y a toute une batterie de mesures, ce qu'on appelle des mesures dérogatoires, il y en a un peu plus de 500 en France. C'est ce qui rend l'impôt finalement compliqué. Et le sujet aujourd'hui, c'est plutôt de revenir à un impôt véritablement incitatif, mais limité à quelques mesures, à caractère social et environnemental notamment, et d'essayer de balayer tout ce qui a été le développement de niches fiscales qui ont permis de défiscaliser à outrance et qui ont profité essentiellement aux hauts revenus, qui créent un manque à gagner pour l'État et dont même l'efficacité est discutée, parce qu'on ne sait pas finalement dans tous les secteurs qui comportent des mesures fiscales incitatives si cette incitation a été efficace ou pas. Donc le débat d'aujourd'hui est plutôt de revenir sur les incitations et en essayant de garder les incitations vertueuses.
Merci, nous arrivons au terme de la première partie de l'émission. Et après un peu de musique, nous parlerons de l'évolution et des tendances fiscales depuis une vingtaine d'années. En attendant, musique.
Happy.
de retour sur le Petit Alter Radio, l'émission de Attaque Marseille, sur les ondes de Radio Grenouille. Aujourd'hui, nous parlons de fiscalité et nous allons maintenant parler de l'évolution de ces politiques fiscales depuis une vingtaine d'années. Avec nous, Vincent Drezé pour répondre à nos questions. Alors, les tendances fiscales depuis 20 ans, de quoi s'agit-il? On entend parler de niches fiscales, etc., impôts sur le revenu. Bon, comment peut-on tracer l'évolution récente en matière fiscale en France?
En deux mots, en France, mais aussi malheureusement à l'étranger, l'évolution de la fiscalité est la suivante. Il y a une baisse des impôts directs et une hausse des impôts indirects. Et une fois qu'on a dit ça, on peut décliner sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, sur les impôts directs qui ont baissé de plusieurs manières. À la fois, on a réduit les taux. Par exemple, l'impôt sur le revenu, il avait un taux qui était encore supérieur à 50% il y a un peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, c'est à 40%. Il y avait 13 tranches jusqu'en 1986, puis 7 tranches jusqu'en 2006, et maintenant il y en a 5. Ça veut dire que la progressivité générale a diminué.
J'ai entendu dire qu'on ne veut en mettre que 3 d'ailleurs. Non, dans les...
dans les projets, il y a des projets fiscaux plus ou moins, j'allais dire, dogmatiques et idéologiques. Et, vous savez, certains, un débat, notamment sur la France libérale, qui consiste à dire peut-être qu'on peut mettre un impôt sur le revenu à 3 tranches, voire même, pour les plus jusqu'au boutistes, une flat tax, c'est-à-dire un impôt à une seule tranche. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le mouvement a consisté à diminuer la progressivité de l'impôt, ce qui veut donc dire que les inégalités de revenus après impôt ont augmenté. Et les évolutions des inégalités ont été mesurées dernièrement par l'INSEE, et les choix fiscaux, l'affaiblissement de l'impôt sur le revenu a joué malheureusement un grand rôle dans l'évolution des inégalités. Il y a aussi une autre manière de baisser l'impôt sur le revenu, c'est de le truffer des niches fiscales, qui sont ni plus ni moins que des baisses d'impôts qui sont ciblées hein, en fonction de la fiscalité de l'épargne, par exemple. Mais c'est ciblé, mais pour les bénéficiaires, c'est bien une baisse d'impôts. Et donc ce mouvement-là, il a été manifeste en France depuis une vingtaine d'années, et puis singulièrement depuis une dizaine d'années. On a baissé les impôts directs, notamment l'impôt sur le revenu. Pas seulement, on a baissé également l'impôt sur les sociétés, je connais, dans les années 80 il était à 50%, maintenant il est à 33%, et de la même manière on a développé des niches fiscales dans l'impôt sur les sociétés. On a baissé également l'impôt de solidarité sur la fortune en développant des niches fiscales pour muter l'assiette de l'ISF de niches fiscales, et donc ça c'est une vraie tendance, il y a un affaissement des impôts directs. Parallèlement, il y a eu une augmentation de prélèvements à taux proportionnel, même si le taux de la TVA lui n'a que peu bougé, il a été de 18,6 longtemps, il est passé à 26, il est revenu à 19,6. Il y a eu une augmentation des droits sur les alcools, des droits sur les tabacs, et tout ça a contribué à reporter sur ces prélèvements-là une partie de ce qui était donné ailleurs. Et enfin, il y a eu un autre mouvement en France spécifiquement qui a été très visible avec la décentralisation, c'est que l'État ayant transféré des compétences sur les collectivités locales, et bien il a transféré aux collectivités locales le soin d'augmenter les impôts locaux. Et donc il y a eu un basculement fiscal qui va malheureusement pas dans le sens d'une plus grande justice fiscale.
On parle de niches fiscales, mais il doit y avoir des niches fiscales qui doivent être utiles pour la collectivité. Je veux dire, toutes les niches fiscales ne servent pas simplement qu'à mettre de l'argent de côté pour les gens qui ont de l'argent, je pense, non?
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on a de niche fiscale, il faudrait vraiment l'appeler mesure dérogatoire. Pourquoi mesure dérogatoire? C'est simplement on bénéficie d'un allègement en fonction d'un objectif par rapport à ce qu'on aurait payé s'il n'y avait pas eu cet allègement. Moi, j'ai identifié 3 grandes catégories des mesures dérogatoires. Des mesures dérogatoires qui bénéficient, ça ne va pas être curieux, mais au plus modeste, mais c'est par exemple la prime pour l'emploi, hein, essentiellement ça. Et un grand volume de mesures dérogatoires qui bénéficient tant aux contribuables aisés qu'aux classes moyennes. On peut y trouver, par exemple, les réductions d'impôts pour frais de dépendance, par exemple. L'exonération des intérêts des livrets A, qui est une forme d'incitation à l'épargne populaire et qui est aussi une incitation fiscale. Et on trouve une troisième catégorie de niches fiscales plus particulièrement utilisées par les ménages aisés, c'est notamment tout ce qui touche au placement. Et là, effectivement, c'est là qu'on trouve la défiscalisation la plus outrancière. Alors, le vrai travail consisterait à balayer toutes les niches fiscales pour voir quel est leur rapport coût-efficacité. Et on peut s'étonner d'ailleurs que ça n'ait pas été fait, parce que on nous parle de bonne gestion de l'argent public, bah, tout le moins, il faudrait voir si, dans certains cas, il vaudrait mieux pas récupérer des sous plutôt que d'accorder des allègements. Et on s'est penché sur une mesure qui est assez intéressante, qui révèle à elle-même la complexité du débat sur les niches fiscales, c'est la réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile. Ça a été créé en 92 et à l'époque, le plafond était de 12 500 francs. On ne pouvait pas réduire de plus de 12 500 francs son impôt, ce qui était une incitation déjà relativement élevée. Et puis maintenant, elle est montée, cette réduction, à 7 500 euros, c'est-à-dire 50 000 francs. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'avec un plafond faible, il y avait un rôle d'incitation, en clair, à régulariser les services à la personne qui n'étaient pas déclarés. Et c'est, les personnes qui régularisaient sont plutôt issues de la classe moyenne, mais ils bénéficient de réductions d'impôts assez faibles, quelques centaines d'euros la plupart du temps. Par contre, vous avez des quartiers très riches, très aisés, qui, avant même la réduction d'impôt, employaient du personnel à domicile pour l'équivalent d'un plein temps, qui ont bénéficié à plein de la réduction d'impôt alors qu'ils n'en ont pas besoin. Et en clair, cette réduction d'impôt, plutôt que de l'avoir à 7 500 euros, il faudrait la limiter à 2 000 ou 2 500 euros. Elle serait moins coûteuse pour la société, elle conserverait le caractère incitatif pour les classes moyennes et on éviterait l'effet d'aubaine. Et ça veut donc dire qu'il faut rentrer dans chaque mesure pour voir s'il faut supprimer la mesure, la réformer ou la maintenir.
Oui, c'est vraiment un travail, une volonté politique de dégager, de tirer le bon grain de livret, là, parce que je veux dire, ça fait des années que ces niches fiscales, quel que soit le gouvernement, ont été mises en œuvre, et finalement, elles sont données, on s'aperçoit, comme vous le disiez, en fonction des lobbying qui sont réalisés, quoi.
Le problème, c'est qu'on a accumulé les niches fiscales sans se soucier de leur efficacité. On a dit c'est bon pour la croissance et pour l'emploi, alors que ça n'était pas du tout le souci. Maintenant, si on veut s'attaquer vraiment à l'activité économique et à l'efficacité économique et sociale de ces mesures-là, il va falloir rentrer dans le détail. Mais on a laissé s'accumuler tellement de niches que ça va être long.
Très bien. On peut un petit peu parler maintenant des impôts locaux. C'est-à-dire on s'aperçoit qu'il y a une grosse discussion sur le financement des collectivités territoriales avec la suppression d'un certain nombre d'impôts et ce qui est prévu par le gouvernement actuel. Que peut-on dire sur ce sujet-là et quelles sont les sources de financement complémentaires qui pourraient être envisagées?
Alors ce qu'il faut dire sur les impôts locaux, c'est vrai, ils ont augmenté. Ils ont augmenté essentiellement parce qu'on a transféré des compétences. Et on a transféré des compétences, en plus de ça, qui évoluent, dont les besoins évoluent. Tout ce qui touche, par exemple, à l'action sociale, à la voirie, il y a un certain nombre de compétences qui évoluent. Donc, il y a des besoins sociaux qui vont évoluer. Il faudra donc augmenter les impôts locaux. Et là, quelle que soit la tendance politique des élus. Le problème des impôts locaux, c'est que leur mode de calcul, leur assiette est vétuste et injuste. Alors, ce sont des principes qui ont été arrêtés dans les années 60, qui consistait à partir du principe que lorsque vous avez un logement, que si vous le donnez en location aux conditions normales du marché, vous allez tirer un certain revenu, et c'est ce revenu un peu virtuel qui sert d'assiette. En soi, il faut dire que c'est pas forcément mauvais. Ça privilégie ceux qui sont dans des quartiers mais qui ne sont pas tellement recherchés, etc., eh bien eux, leur impôt, en théorie, doit être inférieur à ceux qui sont dans des quartiers recherchés. Mais ce principe a été perverti avec le temps parce qu'il n'y a jamais eu de révision générale des valeurs locatives cadastrales, les valeurs locatives cadastrales étant l'assiette des impôts locaux. Et donc, faute de réévaluation, eh bien, vous avez des quartiers qui ont pris de la valeur, mais les impôts locaux sont restés bas. D'autres logements qui se sont dégradés alors que leur impôt locaux est resté relativement élevé. Ça a été le cas pendant très longtemps des HLM. Et on est arrivé à une situation totalement ubuesque où les impôts locaux, un, augmentent et deux, sont incompris, presque illégitimes, parce qu'ils sont très mal répartis. Donc c'est vrai qu'il faudrait une refonte totale des impôts locaux en tenant davantage compte de la réalité. Dans les impôts locaux, il faut maintenir un caractère foncier. Parce que prenons l'exemple de quelqu'un qui est à Paris et qui va acheter à Lille un appartement. Il va louer un appartement en fonction des conditions du marché de Lille. Il va éventuellement bénéficier des investissements publics en termes de transport, de tramway par exemple, etc. Et donc il va pouvoir tirer un bon loyer grâce notamment aux investissements publics. Donc il est normal que l'impôt locaux soit assis sur quelque chose de foncier et qu'il aille à la collectivité locale en question, en l'occurrence dans mon exemple Lille. Mais il faut repenser ça en tenant tout simplement compte de la réalité économique. Et pour le coup, il faudrait faire une révision des valeurs locatives cadastrales et faire en sorte qu'ensuite, l'évolution des impôts locaux ne puisse pas excéder l'évolution des revenus pour pas qu'on se trouve avec des ménages surimposés.
Alors on va passer du local au global finalement à l'adage. puisque on va aussi aborder l'aspect de la fiscalité internationale, puisque on entend parler d'exilés fiscaux, de gens comme ça qui bénéficient de la différence de fiscalité à travers les pays. Quels sont les impacts de cette différence fiscale entre les pays et quelles seraient les actions possibles? Quelle est la politique à mener possible?
Eh bien, il faut prononcer le mot, il y a une concurrence fiscale et sociale entre les pays, et notamment au sein de l'Union européenne. Alors qu'on martèle l'idée qu'il y a un marché unique, eh bien, il n'y a pas de fiscalité harmonisée, et il y a une concurrence fiscale. Et cette concurrence fiscale, dans tous les États, elle prend la même forme. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a un allègement des impôts directs, spécialement des impôts directs payés par ce qu'on appelle les bases mobiles. Les bases mobiles, ce sont ceux qui peuvent se déplacer, les entreprises ou les personnes physiques. Pourquoi ? Parce que chaque État veut attirer les bases mobiles de son voisin ou retenir les siennes pour pas qu'il aille chez le voisin. Et donc c'est pour ça qu'on assiste à une baisse de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur le patrimoine, de l'impôt sur les sociétés. La question qui est posée, c'est est-ce que c'est efficace ? En réalité, on voit bien que pas vraiment. Tous les États font la même chose. Donc il y a des grands gagnants, ce sont les bases mobiles en question, mais les États n'en retirent pas d'avantages comparatifs déterminants. Ce qui veut donc dire qu'il faudrait inverser le cours des choses et plutôt se lancer sur une politique d'harmonisation au sein de l'Union européenne. Et puis, plus globalement, c'est un des grands messages d'attaque, c'est possible de mettre en place des taxes globales qui auraient des vertus, par exemple, de limiter la spéculation, d'aider au développement, etc.
Alors, vous parlez de ces possibilités, ces politiques internationales, notamment ce qui est avancé par attaque. Ça me permet en fait de dire que nous en venons à la fin de cette deuxième partie qui est là où nous voulions juste aborder des faits. Et après un petit peu de musique, nous en viendrons à parler des propositions, justement. Et entre autres sur les paradis fiscaux, puisqu'il faudra bien prononcer le mot. Et donc, voici venu le temps de la petite pause musicale. Et de retour à nouveau sur le petit Alter Radio, les ondes de Radio Grenouille. Aujourd'hui, nous parlons de fiscalité. La troisième partie de cette émission est donc consacrée aux propositions d'attaque pour retrouver une fiscalité saine et qui soit juste et qui profite à tous. Pour introduire cette troisième partie, je laisse la parole à Louis Rousseau, qui avait un petit mot à nous dire à ce sujet-là.
C'est-à-dire que vraiment, je me pose des questions en vous écoutant, parce que je ressens un décalage très fort par rapport au discours ambiant. Dans le discours ambiant, c'est l'État est quasiment en faillite, et puis on peut dire ça en France, on constate ça au niveau européen, les alertes le matin en se levant sur baisse du 440, aujourd'hui très grande manifestation, grève générale en Grèce. Bon, c'est partout ce même problème, même s'il connaît un stade beaucoup plus aigu maintenant en Grèce. Donc on dit ici en France, les caisses sont vides, c'est ce que disait François Fillon tout de suite au début de la présidence de Sarkozy. La dette de la France est colossale, il faut donc réduire massivement les dépenses de l'État, c'est la seule solution si on ne veut pas se retrouver dans la situation de la Grèce. Il faut réduire les dépenses de santé, d'éducation, de retraite. Bon, et donc à ce moment-là, franchement, je me pose la question en vous entendant sur impôts justes, etc. On a l'impression qu'on est complètement à rebours. Alors, on n'entend qu'un son de cloche. Et face à cela, comment réagissez-vous ?
Alors, à l'évidence, la fiscalité peut jouer un rôle de stabilisation. Mais évidemment, c'est si on veut. Et tout est affaire de volonté politique. Prenons l'exemple de la fiscalité européenne, parce que c'est vrai que l'exemple grec, notamment, vous l'avez dit, puis tout ce qui touche à la finance, aux finances publiques, est utilisé, certes, par les gouvernements comme un élément de dramatisation. On a ça en France pour la question des retraites, mais surtout, ça traduit une incapacité totale de remettre en cause les choix de ces dernières années. L'exemple grec aura une répercussion et légitime pleinement l'idée qu'il doit, enfin, il faut des instruments fiscaux européens qui sont des éléments de stabilisation, qui en l'occurrence ce ne serait pas du luxe, et qui seraient aussi des éléments de financement de politiques publiques européennes, mais surtout ça dégagerait des marges de manœuvre supplémentaires, puisqu'au lieu d'alléger la fiscalité des bases mobiles comme on l'a fait, c'est-à-dire des agents économiques les plus riches, les plus mobiles, ceux qui se livrent à un véritable chantage fiscal et social, ceux qui accessoirement sont aussi ceux qui spéculent contre la Grèce actuellement. Donc si on se dégageait cette marge de manœuvre pour financière, politique, économique, pour stabiliser l'Union européenne dans un premier temps et par suite probablement une bonne partie de l'économie mondiale, ben oui, ça changerait beaucoup de choses. Simplement, il faudrait revenir sur des dogmes qui sont qu'il faut toujours et encore réduire les coûts, les salaires, les impôts, les cotisations sociales. Or, ça veut dire, ce choix-là, c'est quoi ? C'est simplement le choix libéral qui est de dire maintenant, on en a assez de tout ce qui est socialisé, services publics, protection sociale, il n'y a pas de société, comme disait Mme Thatcher, il n'y a que des individus. Le fond du fond, il est là. Lorsqu'on aura fait passer l'idée que l'individu ne peut pas évoluer dans une société sans prise en charge de biens collectifs et de biens publics, alors les conditions politiques seront réunies pour porter ces projets-là, qui techniquement sont pourtant assez avancés. Il faut savoir, par exemple, qu'en matière d'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les sociétés en Europe, c'est l'impôt sur lequel la concurrence fiscale s'exerce le plus fortement. Eh bien, il existe au niveau de la Commission européenne un projet d'harmonisation de l'impôt sur les sociétés. Techniquement, il est prêt. Faute de volonté politique, il ne sort pas. Et c'est bien des scandales du moment.
C'est là, on revient au principe de l'acte unique européen, quoi. Je veux dire, c'est la source du mal, quoi, ce truc-là. Je veux dire, c'est à partir de là que les problèmes et les divergences sont affirmés, quoi.
Oui, ce qui est frappant d'ailleurs, c'est qu'à partir de 1986 et de l'acte unique, tous les États se sont engagés dans une politique de baisse des impôts, de baisse des impôts directs, sans même avoir à subir la concurrence fiscale, ils l'ont anticipé. Mais vous savez, c'est comme sur les marchés financiers, c'est les prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire on pense que ça va arriver, et donc on le fait, donc ça arrive. Et c'est ce qui s'est passé en matière de fiscalité, avant même de savoir quels étaient les éventuels dégâts, entre guillemets, de la concurrence fiscale, on l'a provoqué en anticipant ce mouvement-là. Et sans même réfléchir par ailleurs, et certains quand même le disent, même le Conseil d'analyse économique l'a admis dernièrement en disant c'est vrai que les situations des États n'étant pas les mêmes, ceux qui, comme la France, parce que qui sont bien positionnés, tout simplement parce qu'il y a des infrastructures, etc., qui ont été financées par l'action publique, eh bien, ces pays-là, comme la France, peuvent supporter des différentes impositions, tout simplement parce qu'en face, elles mettent des politiques publiques qui sont très présentes. Même ça a été nié, ce qui est quand même assez terrible, et on s'est lancé sur le mot concurrence, dans une concurrence globale, et qui a emporté une concurrence fiscale et sociale.
Alors, nous allons. Je voudrais maintenant un petit peu aborder l'aspect des propositions de ATTAC, puisque vous êtes membre du conseil scientifique d'ATTAC, Vincent Drezé. D'abord, sur les niches fiscales, on en parle depuis le début de l'émission, sur les niches fiscales sur le territoire national, quelles sont les propositions avancées par ATTAC pour élargir les recettes de l'État pour lutter un petit peu contre ces niches fiscales qui, on l'a compris, sont à l'origine d'un manque à gagner en quelque sorte?
Oui, il y a un manque à gagner qui est colossal, qui est évalué à 75 milliards d'euros. Et si on prend toutes les anciennes niches fiscales qui sont rentrées dans le droit commun, c'est même 146 milliards d'euros, donc c'est colossal. Les propositions, elles sont les suivantes. De manière immédiate, il faudrait améliorer le plafond qui existe. Il faut savoir qu'il y a un plafond global, mais qui ne comprend pas toutes les niches fiscales. Et donc, il faudrait que le plafond comprenne véritablement l'ensemble des niches fiscales. Ça, c'est quelque chose qui peut se mettre en œuvre rapidement. Dans un deuxième temps, il faut revoir l'ensemble des niches fiscales pour voir celles qui sont efficaces, celles qui ne le sont pas, et les supprimer, voire les réformer. Enfin, il faut surtout se mettre d'accord sur mode de politique fiscale, c'est-à-dire que ne pas retomber dans une inflation de textes fiscaux en fonction du lobby de tel ou tel. Donc ça, voilà. Sur les niches fiscales, ce sont ces trois points qui sont importants, le plafond, la révision des niches et un mode de gouvernance, j'allais dire, même si j'aime pas beaucoup ce terme-là, en matière de niches fiscales.
D'accord. Et maintenant, de manière plus large, on va passer à l'international, sur le problème des paradis fiscaux, puisque c'est le terme qu'on utilise généralement de manière populaire pour parler de tout ça. La fiscalité internationale, quelles sont les propositions avancées par ATTAC pour, une fois de plus, assainir la fiscalité?
Oui, il faut rappeler d'ailleurs que les paradis fiscaux, les taxes globales étaient à l'origine de la création de l'ATTAC. Et à l'époque, certains nous qualifiaient de doux rêveurs. On voit bien, malheureusement, que l'ATTAC avait raison un peu avant les autres en pointant le manque, malheureusement, de taxes globales et l'importance des paradis fiscaux. Alors les paradis fiscaux, les propositions en ce qui concerne les paradis fiscaux sont à la fois fiscales, mais aussi juridiques et économiques. À l'évidence, il faut aller vers l'échange automatique d'informations, c'est-à-dire que concrètement, n'importe qui ouvre un compte bancaire ou crée une société dans un territoire, eh bien, le territoire de là où il réside doit être informé de ce qu'il a ouvert ou en termes de compte créé. Ça, c'est, j'allais dire, la mesure phare en ce qui concerne la lutte contre l'évasion fiscale internationale. C'est une question, pour le coup, de bonne transparence. Il faut aussi, au niveau européen, créer un registre européen, voire même international, pourquoi pas des sociétés, pour qu'on empêche la prolifération de sociétés écrans. Il faut donc également, toujours au niveau européen, développer des procédures de coordination, notamment de contrôle fiscal. Le contrôle fiscal, il est resté national, alors que la fraude s'est internationalisée. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut développer des procédures au niveau européen. De la même manière, il faudrait, toujours au niveau européen, modifier un certain nombre de choses qui existent, qui peuvent être intéressantes. C'est par exemple la directive des revenus de l'épargne. Elle est en cours de révision, il y a un élargissement qui est intéressant. Donc c'est quelque chose qu'il faut porter au bout. Et plus généralement, si on arrive par exemple, interdire la titrisation, modifier les obligations comptables pour que celles-ci, vous savez, il y a des normes comptables internationales qui sont calées sur l'évolution des marchés et l'évaluation des actifs des entreprises se fait en fonction des cours boursiers. Donc, il faut supprimer ce type d'obligations comptables, il faut les réformer. On a la question des taxes globales qui vient en plein, modifier l'architecture financière et fiscale internationale, des taxes globales sur les transactions financières bien sûr, mais des taxes globales également on peut imaginer sur l'impôt sur les sociétés, ça pourrait être mis en œuvre d'ailleurs au niveau européen, ou sur le patrimoine, serait un élément de stabilisation de la concurrence fiscale et ça limiterait le nomadisme fiscal de ceux qui peuvent aller s'installer dans les paradis fiscaux. Voilà par exemple. Alors ensuite, plus largement, il y a la question de l'aide au développement, ne serait-ce que pour faciliter la reconversion des territoires parfois un peu lointains qui ont fait de leur stratégie de développement une stratégie fiscale, et pour essayer de voir entre ceux pour les paradis fiscaux proches de chez nous, qui n'auraient pas besoin de ça, mais d'autres territoires qui se livrent à une activité de paradis fiscal tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix, ben, l'aide au développement leur permettrait de sortir du statut de paradis fiscal. Donc c'est vrai que c'est un ensemble de mesures, elles sont connues, elles ont même été pour certaines reconnues comme étant intéressantes. Dernièrement, avec les travaux qu'il y a pu y avoir là-dessus, on a pu rencontrer des personnes à l'OCDE, etc. On voit bien que certaines mesures, souvent par opportunisme politique, comme la taxe sur les transactions financières, sont reprises, mais ça veut dire tout de même que le débat avance et il avance dans le sens de ce qu'on porte.
Et je voudrais maintenant aborder un dernier aspect de la fiscalité. On parle beaucoup de réchauffement climatique, etc. Il y a donc tout un ensemble de mesures qui sont prises pour lutter contre ce réchauffement, et entre autres des mesures fiscales. On appelle tout ça la fiscalité verte. Quelle est la position d'Attaque de ce point de vue-là sur la fiscalité verte ?
Il faut savoir qu'il y a un grand débat dans l'Attaque, il n'y a pas de position monolithique sur la fiscalité écologique. Ce qu'on sait en revanche, c'est que la fiscalité écologique n'est qu'un des outils parmi d'autres tout simplement du combat pour une société plus respectueuse de l'environnement. Il ne faut pas faire de la fiscalité l'instrument miracle. Il y a la politique de la norme, il y a des investissements publics qui doivent être faits, et je veux dire, c'est toute la politique économique et budgétaire qui doit être verdie. Lorsqu'on a ça, on peut réfléchir à des fiscalités suffisamment ciblées qui visent à soit inciter, là pour le coup ce serait des bonnes incitations, l'acquisition de certains matériaux par exemple, ça existe déjà mais on n'a pas tiré le bilan, donc il faudrait bien voir ce que ça a donné, soit à taxer une forme de pollution, mais il faudrait que cette taxe ne retombe pas sur celui qui ne pollue pas, qui n'a pas le choix de consommer un produit quel qu'il soit. Donc il faut viser le bon pollueur. Et surtout, lorsqu'on vise le pollueur quel qu'il soit, il faut lui offrir une alternative. Si un contribuable, quel qu'il soit, entreprise ou ménage, se retrouve à polluer, malgré lui, parce qu'il n'a pas le choix, créer une taxe écologique va le pénaliser. Ça sera illégitime, ça ne sera pas compris, ça ne sera même pas efficace. Donc ça veut donc dire qu'il faut, si on met une taxe écologique, offrir une alternative, ce qui pose par exemple la question des infrastructures publiques. Voilà par exemple. Et surtout, il faut avoir une approche de la fiscalité écologique qui ne soit pas celle dominante, parce que l'approche dominante est la suivante. On considère qu'il faut alléger certains impôts ou certains prélèvements, comme l'impôt sur le revenu ou les cotisations sociales, pour mettre en place des fiscalités écologiques. Or, ça ne tient pas la route deux minutes en termes d'approche, parce que ça veut dire qu'on baisse des impôts durables et qu'on met des impôts qui sont normalement éphémères, puisqu'ils visent une pollution qui doit être réduite. Donc si la pollution se réduit, eh bien l'impôt va se réduire. Donc il faut avoir le courage politique de dire, eh bien la fiscalité écologique vient en plus des impôts existants, mais on l'a suffisamment ciblée pour que son rendement diminue. Et entre-temps, les fonds qu'elle aura procurés auront aidé à la reconversion écologique de l'économie.
Eh bien, merci beaucoup Vincent Drezé. Nous arrivons au terme de la fin de cette troisième partie de l'émission. Et donc, au terme de l'émission, on vous remercie beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne sur ce sujet, la fiscalité. C'est pas évident. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et donc, à la fin de cette émission, quelques annonces, peut-être. Louis Rousseau, des annonces ?
Oui, des annonces, sachant que je pense qu'on va revenir d'une façon ou d'une autre sur ces thèmes, parce que quand on entend dire, enfin là je suis un petit peu le citoyen lambda en disant mais qu'est-ce qui se passe, en 12 ans la masse monétaire a doublé, je sais pas si nous sommes dans la situation de considérer que nos moyens ont doublé. Face à ça aussi, endettement de plus en plus important. Mais il y a l'autre côté du miroir. Les dettes, c'est à qui ? Et où est l'argent alors ? Donc je crois qu'on va rebondir plusieurs fois sur ce sujet. De différentes façons d'ailleurs. Et à l'occasion des rendez-vous que nous vous proposons, la dernière émission parlait des retraites, et ce thème est un véritable enjeu de société. Retenez la date, elle est un petit peu lointaine pour l'instant, mais un grand meeting est prévu à Marseille le 7 juin, réservez absolument cette date.
Eh bien, merci Louis, nous avons bien noté le 7 juin, rendez-vous à Marseille. Cette émission se termine, merci de nous avoir écoutés sur la fiscalité. Nous avons donc débattu de tout cela, mais le plus important reste de remplir nos déclarations d'impôts d'ici la prochaine émission, le deuxième samedi de juin, où nous nous retrouverons pour un nouveau petit Alter Radio. Merci à tous.